Il ne possédait rien de moins qu'un Stradivarius pour instrument. Un Stradivarius au désert. Il y aurait peut-être une apostille à rajouter à mon ouvrage, une coda, voire un codicille. Des différentes formes de folie en Orient, addendum, la caravane des travestis. Codicille qui rendrait compte de la passion de mes confrères d'autrefois pour le déguisement et les costumes locaux. Beaucoup de ces explorateurs politiques ou scientifiques se crurent obligés de se travestir, autant pour le confort que pour passer inaperçu. Burton en pèlerin dans la caravane de la Mecque. Le sympathique orientaliste hongrois Armin van Berry, l'ami du comte de Gobineau, en vagabond mystique, crâne rasé, robe de bouchala, pour explorer la Transoxiane depuis Téhéran. Arthur Connolly, premier joueur du grand jeu, qui finira démasqué et décapité à Bouchala en marchant persan. Julius Oeting, en bédouin. T. E. Lawrence, qui avait bien lu son Kipling, en guerrier des Hoëtat. Tous racontent le plaisir un peu enfantin qu'il y a, quand on aime le danger, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. La palme revenant aux explorateurs du sud du Sahara et du Sahel. René Caillé, le conquérant de Tombouctou, se travestissant en Égyptien. Et surtout, Michel Vieuxchange, jeune amoureux du désert dont il ignorait tout ou presque, qui se déguise d'abord en femme, puis en outre à Celle, pour entrevoir un quart d'heure la ville de Smara, certes mythique, mais ruinée et abandonnée depuis longtemps par ses habitants, avant de retrouver son grand sac de jute, malade, ballotté au gré des pas des chameaux pendant des jours, sans lumière dans une chaleur de four. Il finit par expirer d'épuisement et de dysenterie à Agadir, âgé seulement de 26 ans. Sarah préfère la simplicité de quelques âmes plus sincères ou moins folles, certaines au destin malheureusement tout aussi tragique, comme Isabelle Eberhardt, amoureuse de l'Algérie et de la mystique musulmane. Isabelle s'habillait certes en cavalier arabe et se faisait appeler Si Mahmoud, mais sa passion pour l'islam et sa foi étaient un peu plus profondes. Elle finit tragiquement noyée par une inondation subite à Ain Sefra, dans ce sud oranais qu'elle aimait tant. Sarah rappelait souvent, à son propos, qu'elle avait même conquis le général Lyautey, pourtant d'ordinaire peu passionné par les excentricités, à tel point qu'il passa des jours, désespéré, à la recherche de son corps d'abord et de ses journaux ensuite. Il finit par les trouver, ses carnets, dans les ruines du gourbi d'Isabelle, et le manuscrit complet de sud oranais fut arraché à la boue par les militaires, avec une patience de philatéliste décollant des timbres. La vraie question de Bilger à Palmyre, qui ne se souciait guère de mystique et de déguisement, mis à part les anecdotes divertissantes sur les affabulateurs de tout poil qui peuplaient ces contrées, les plus drôles concernaient bien évidemment les aventures du français Charles Hubert et de l'allemand Julius Oeting, véritable Laurel et Hardy d'Arabie. La vraie question était celle du rapport entre archéologie et espionnage, entre science militaire et science tout court. Comment rassurer aujourd'hui les Syriens sur nos activités, râlait Bilger, si nos prédécesseurs les plus fameux ont joué un rôle politique, secret ou public au Moyen-Orient? Il était désespéré par ce constat. Les archéologues célèbres avaient tous, à un moment ou un autre, trempé dans des affaires d'État. Il fallut le rassurer. Heureusement ou malheureusement, les archéologues n'avaient pas été les seuls à servir les militaires. Bien au contraire. À peu près toutes les branches de la science, linguistes, spécialistes de sciences religieuses, historiens, géographes, littérateurs, ethnologues, avaient eu des rapports avec leur gouvernement d'origine en temps de guerre. Bien sûr, tous n'avaient pas nécessairement porté les armes comme T. E. Lawrence ou mon compatriote Aloïs Musil, Lawrence de Moravie, mais beaucoup, femmes comprises, comme Gertrude Bell, ajoutait Sarah. Beaucoup avaient, à un moment ou un autre, mis leurs connaissances au service de la nation européenne dont ils étaient les ressortissants. Certains par conviction nationaliste, d'autres pour le gain, financier ou académique, qu'ils pouvaient en retirer. D'autres enfin